Monique Kirouac, vous vous êtes intéressée à certaines conférences offertes au 90e congrès de l'ACFAS parce que ça a été résumé à travers quelques articles offerts par l'UdeM Nouvelle.
Exactement. Alors le premier, Hélène, s'intitule « Jamais sans ma télé, le cirifile sous la loupe ». Alors, peut-être que vous avez vécu cela, il suffit de quelques heures et ça y est, vous voilà sous le charme d'une télésérie. Mm-hmm. Comment, en tant que spectateur ou spectatrice, vous y consacrerez-vous? Accorderez-vous seulement une heure par semaine à cette série ou plutôt plusieurs week-ends d'affilée? Chercherez-vous à partager votre nouvelle passion dans les médias sociaux ou est-ce que vous irez même jusqu'à acheter des produits dérivés? Alors, c'est tout ça qui devient un pan de recherche universitaire, recherche qui explore donc l'intérêt porté aux téléséries, les raisons qui motivent cette attraction, on dit même cet amour, et les pratiques qui suscitent un engagement de la part des spectateurs ou spectatrices. En fait, c'est le sujet qui a été abordé par Joyce Saint-Père, qui est doctorante et chargée de cours au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'UdeM de l'Université de Montréal. Alors, selon Mme Saint-Père, il y a deux écoles de pensée qui expliquent le phénomène de la sériephilie. La première soutient que c'est le gain de qualité et de la complexification des fictions qui ont suscité dans les dernières décennies un intérêt grandissant pour les téléséries. Tandis que la deuxième hypothèse, en fait, il s'agit plutôt des liens émotionnels que le spectateur ou la spectatrice parvient à créer avec ces séries-là. Il y a eu une évolution dans le rapport à l'œuvre, semble-t-il, en tant que telle. Les séries auraient été longtemps perçues comme du divertissement à leur attention décérébrée. Alors ça veut dire plutôt stupide, plutôt idiote. Et ça, c'était les prétendus académiciens qui avaient cette perception-là. Il aura fallu attendre les années 1990 pour que les amateurs et les amatrices se décident à assumer leur amour des téléséries. Selon Mme Saint-Père, il y a eu un anoblissement qui a commencé, entre autres, avec la série X-Files, aux frontières du réel.
Un anoblissement. C'est très petit, ça.
Pardon?
C'est très petit, ça, un anoblissement.
Oui, c'est ça, oui. Un anoblissement, oui, c'est ça, oui. Alors, dans l'ensemble, les gens assument beaucoup plus le fait d'apprécier les œuvres par rapport aux générations passées. On ne se cache plus, en fait. Et ce serait dû en partie aux réseaux sociaux qui permettent d'interagir avec d'autres et de normaliser son amour pour les séries. Alors, peut-être qu'auparavant, les séries télévisées étaient habituellement regardées dans le confort de son domicile. En fait, c'est pas peut-être, c'est vraiment comme ça qu'on le faisait. L'arrivée des nouvelles technologies, c'est venu changer la chose. Non seulement il est encore possible, bien sûr, de regarder sa série fétiche sur sa télévision, mais on peut maintenant la suivre sur un ordinateur, une tablette, un cellulaire, et en fait, peu importe où on se trouve. Le fait de pouvoir regarder des séries sur n'importe quel support, de pouvoir les commencer à la maison et parfois les poursuivre notre écoute, soit dans le métro, dans la voiture si on ne conduit pas, ou encore dans l'avion, ça change la manière dont on perçoit les œuvres. Donc, le visionnement n'est plus limité dans le temps, ni à un seul écran. C'est où l'on veut, quand on le veut. Certains vont faire appel, par exemple, à l'écoute en rafale, alors que d'autres optent même pour le visionnement accéléré. Ce qui importe, en fait, je pense, c'est d'apprécier la créativité de nos créateurs. Mais ça, c'est pas la chercheure qui dit ça, c'est moi.
C'est
alors
la Monique.
Voilà, c'était le premier article, Hélène.
D'accord. Et puis là,
est-ce que vous avez une série fétiche?
En ce moment, non, j'ai pas vraiment le temps de me taper une série parce que quand je commence, j'ai beaucoup de difficultés à arrêter. Mais c'est vrai que j'ai regardé récemment sur le site de Télé-Québec L'air d'aller. Et je me suis laissée prendre. Là, j'ai regardé les 10 épisodes sans m'arrêter. Mais c'est moins décourageant.
En rafale.
Pardon? Oui, en rafale.
En rafale.
Oui. Et on parle de binge-watching, mais je pense que c'est pas encore dans le dictionnaire.
Oui, on parle de binge-watching, puis on parle aussi de speed-watching. Il y en a qui accélèrent, en fait.
Ah non, franchement.
Oui, en plus.
Il y en a des pressés. Et vous, Monique, en avez-vous une?
Ben moi, j'ai suivi après le crash.
Ah oui.
J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé la facture raffinée. J'ai aimé les dialogues. J'ai aimé les personnages. Non, c'est rare que ça m'arrive, mais celle-là, je l'ai bien aimée.
Une grande série.
Je ne parlerai pas de toutes les séries norvégiennes, mm-hmm. danoises que j'ai suivies aussi.
Oui, à un moment donné, on se lasse quand même du style, mais c'est très bien fait. Mais c'est vrai qu'Avant le crash, qui est une télésérie québécoise, est un petit chef-d'œuvre, hein? C'est bon à tout point de vue.
Ah oui, les comédiens étaient vraiment fabuleux.
Oui, je vais demander aux copains d'abord. Mathieu, télésérie, vous n'êtes pas très télé, vous?
Non.
Non.
J'ai écouté pour la première fois The Big Bang Theory, une série américaine.
Oui.
Mais c'est tout.
Vous n'avez pas l'air emballé non plus.
Oh non, je suis très emballé, okay. Je suis très prude, en fait.
Et Yvan, vous, est-ce que vous êtes aussi prude que Mathieu?
moi, je regarde plusieurs téléséries.
En même temps?
On regarde Beef, qui est sur des personnes dans le coin de Los Angeles qui ont de la difficulté à vivre avec leur propre vie. Mais une que je suggérais énormément, c'est Aller simple, une série québécoise qui a passé il y a un an ou deux, je pense, où une dizaine de personnes sont dans un endroit isolé, puis là, il y a des personnes qui meurent.
Ah oui, oui, oui.
Agatha Christie. Bon, alors je continue, je vous parle.
Oui, oui, inquiétez-vous pas, on n'a pas oublié là, vos autres sujets. Ne vous en faites pas, il y a du temps en masse. Alors, l'autre conférence pose la question suivante. Pourquoi il sera bientôt interdit de dégriffer les chats domestiques?
Eh bien oui, parce que Hélène, en février 2024, il y a un règlement en matière de bien-être et de sécurité de l'animal qui va entrer en vigueur au Québec et elle interdira, entre autres, le dégriffage des chats ou ce qu'on appelle l'onyxectomie. Alors ça s'écrit O-N-Y-X-E-C-T-O-M-I-E. Alors, au-delà du questionnement éthique à l'égard de cette pratique, il y a différentes études qui ont suggéré et même démontré les effets négatifs sur la santé globale de l'animal. Enfin, c'est ce que nous révèlent les professeurs Éric Troncy, Bertrand Lucier et Aude Castel, qui sont de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Alors, en quoi consiste l'onyxectomie? C'est une intervention chirurgicale qui consiste à amputer la troisième phalange de chaque doigt des chats, en éliminant par le fait même leurs griffes. Des études indiquent que cette pratique contribue, l'onyxectomie, à l'apparition de problèmes de malpropreté et d'agressivité. Selon l'une d'entre elles, chez le tiers des chats dégriffés, cette intervention entraîne au moins un problème de comportement. On donne deux chiffres ici. 18% des chats ayant été dégriffés vont mordre davantage et 15% ont des problèmes de malpropreté.
Ben oui.
C'est pas drôle.
Ils cherchent à se défendre comme ils peuvent.
Ben c'est ça. Les chats peuvent aussi souffrir de douleurs chroniques et donc de problèmes de comportement après le dégriffage. Si un chat dégriffé, par exemple, fait ses besoins en dehors de sa litière, ben ça pourrait être la conséquence d'une sensation déplaisante associée à une nouvelle hypersensibilité au gravier. Parce qu'on sait hein, qu'ils grattent leur gravier après avoir fait leurs besoins. Alors, imaginez la douleur à chaque fois. L'onyxectomie peut avoir aussi des conséquences sur le vieillissement du système nerveux des chats, favorisant alors l'apparition d'affections telles l'arthrose, mais aussi de la douleur chronique qui va accélérer le déclin cognitif. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions possibles? On parle de tendonectomie, qui consiste à couper un tendon pour empêcher la rétractation de la phalange. Bon, mais ça n'empêche pas d'avoir des douleurs et d'autres conséquences à long terme. D'autres solutions que le dégriffage, on trouve des protège-griffes, Hélène, des petits capuchons de plastique. Vous imaginez mettre ça sur les griffes d'un chat? Les chats sont pas sages, hein, ils vont réagir.
C'est sûr.
Et bien sûr, on peut tailler les griffes, autre défi. Et l'utilisation d'un griffoir, ce serait des stratégies comportementales à renforcement positif. Je dirais tout simplement, évitons donc de faire souffrir nos petits animaux chéris pour protéger nos meubles. Puis on peut s'acheter un griffoir, là, c'est des petites colonnes, et puis le chat s'amuse à se faire des griffes là-dessus.
Alors faisons preuve de compassion. Et autre sujet finalement, le dopage cognitif au travail, qu'est-ce que c'est que cela?
Ah, c'est fascinant, Hélène, et c'est épeurant. Alors, imaginez, une microdose de LSD, ça vous permet de libérer votre créativité et de renouveler votre inspiration. Une gélule, de psychostimulants vous permet d'améliorer votre concentration et votre attention. Un cachet de bêta-bloquant peut réduire les effets du stress. Bref, des substances pour stimuler ses capacités cognitives, physiques et intellectuelles. Mais ce n'est pas dans un contexte récréatif, c'est dans un contexte professionnel. Dans le monde du travail, cette utilisation extra-médicale de tels produits paraît s'imposer de plus en plus comme une solution pour répondre aux exigences des sociétés en quête permanente d'excellence et de dépassement. Enfin, c'est ce que nous dit la professeure Joanne Collin, qui est sociologue et aussi professeure à la faculté de pharmacie. Elle nous dit que nous assistons actuellement à un accroissement de la consommation de ce qu'on appelle « smart drugs » dans le monde du travail. Ce serait facilité par la surprescription, encore une fois, de psychostimulants pour traiter les déficits d'attention, l'accessibilité en ligne de ces produits, en fait, et la montée en popularité de ce qu'on appelle du self-tracking ou du biohacking. Ça, c'est quand une personne mesure des données relatives à sa santé à l'aide d'appareils portés sur elle et qu'elle cherche ensuite à modifier sa physiologie grâce à l'expérimentation. Alors, on passe de la prescription à un usage non médical où des non-spécialistes vont partager, entre autres en ligne, leur expérience et leur interprétation des dosages. Alors, la sociologue a constaté que la consommation de ce type de drogue-là visait surtout à maximiser le potentiel des travailleurs et à mieux gérer le stress de performance. Mais elle nous dit que ça pose aussi la question de ce que recouvre ce concept de performance. Et elle et son équipe ont réalisé que cet usage laissait entrevoir des questions identitaires, une sorte de débat moral interne dans lequel l'employé se demande si c'est pour être un vrai, il doit prendre tous les moyens possibles pour réaliser ses ambitions et donc consommer, ou si c'est plutôt l'absence de consommation qui confirme son talent. Ben, j'espère, Hélène, que nos talents sont confirmés par notre absence de
pour les bonnes raisons.
Restons nous-mêmes et travaillons sur nous-mêmes plutôt que de travailler à partir de ces smart drugs. Je veux dire, c'est terrible.
Oui. Vas-y, t'es capable. Merci, Monique.